refait la Réunion Midi.
Merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour cette émission de Libre Antenne. On refait la Réunion Midi avec aujourd'hui Johanna Martin et ses invités du jour. Bonjour.
Bonjour Mandy et bonjour à tous. Même leur manifestation est un événement à part entière. Les professionnels de l'événementiel donnaient de la voix la semaine dernière sur le parvis de la préfecture après 9 mois d'arrêt de leur activité. Malgré une reprise partielle, pour certains d'entre eux, l'alerte rouge est lancée. Une délégation a été reçue par Jacques Billan, mais rien de nouveau. Il faudra encore patienter jusqu'au 15 janvier pour peut-être entrevoir la lumière au bout du tunnel. Foutu, c'est l'adjectif qui se colle naturellement à cette année 2020, je pense qu'on peut le dire. Hein. D'autant plus pour les acteurs de la culture et de l'événementiel, interdépendants les uns des autres. Les électropicales, puis le sac qu'il faut, des événements majeurs qui animent l'île chaque année et qui font travailler des centaines, voire des milliers de personnes, ont été annulées ou reportées. C'est une année foutue pour qui organise des spectacles et des concerts avec public debout, mais aussi des mariages, des communions, des festivals, des foires et autres fêtes sonorisées. Hein. Mais les acteurs ne sont pas restés sans rien faire. Au-delà du secteur événementiel, celui de la culture veut penser à demain. Comment faire mieux avec les moyens du bord? 1600 structures, des indépendants se sont alliés autour d'états généraux de la culture il y a 2 mois. 140 propositions ont été faites à l'exécutif pour entrevoir un monde culturel meilleur et plus vertueux. Et on en parle avec vous, Thomas Bordès. Bonjour.
Bonjour, Johanna.
Vous êtes le directeur du festival Les Électropicales et vous avez pris part à ce manifeste des indépendants. On va en reparler. The Show Must Go On. Mais à quel prix? On tente de répondre à cette question avec vous également, Frédéric Dijoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union de l'événementiel. Vous restez avec nous jusqu'à 13h et bien sûr vos appels au 02 62 234 567.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu.
Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir.
Ça change un peu de The Show Must Go On de Queen hein, qui animait la manifestation de la semaine dernière. On s'en souvient d'ailleurs, Thomas, vous y étiez. Comme l'UNEF d'ailleurs, je vais commencer par là. Monsieur Dijoux, alors vous avez eu rendez-vous avec le préfet, une délégation de l'UNEF a été reçue. Et à l'issue de ce rendez-vous, les nouvelles finalement ne sont pas si bonnes, ou en tout cas rien de nouveau sous le soleil, comme on dit.
Alors, rien de nouveau sous le soleil, ça c'est clair, net et précis. Et même pire, parce que je crois que malheureusement, on n'a pas rencontré Monsieur le Préfet, c'était sa directrice du cabinet, Madame Camille Goyer, oui. Et elle nous a fait comprendre clairement qu'on risquait, là, aujourd'hui, cet arrêté qui en court jusqu'au 15 janvier, d'être prolongé, parce que ils le disent pas franchement, mais ils savent que, vu que l'aéroport a été ouvert, et que vu on est dans une période un peu festive en ce moment, on relâche un petit peu les gestes barrières, à droite à gauche, eh bien ils savent que ça peut éventuellement repartir de plus belle pour les cas Covid, et malheureusement de prolonger un petit peu ce décret qui embête un petit peu, qui nous embête beaucoup, on va dire en parenthèse.
Alors déjà, l'origine, pourquoi le 15 janvier? C'est vrai, pourquoi cette date butoir alors qu'au niveau national, par exemple, on parle du 7, ici, on parle du 15, et pourquoi, déjà?
Alors, on va dire que c'est... je crois que ce décret-là a été mis en place, c'est un décret ministériel, mais on va dire que chaque préfet de région...
On est en train de vous perdre, Monsieur Dijoux.
Ouais,
reprenez
le problème de réseau.
De rajouter des choses.
Ah voilà, allez-y.
Alors, je crois que dans ce décret ministériel, le préfet a une dérogation éventuellement pour remettre quelque chose en plus, et ça a été fait au 15 janvier, parce que bon, pour lui, je pense qu'à mon avis, ils savent exactement qu'il y aura une remontée, qu'il y aura un pic, et c'est pourquoi bon, ils ont préféré, à mon avis, c'est pour prévenir que guérir, je pense, à mon avis.
Alors en attendant, vous souffrez, hein, on peut le dire, les entreprises de l'événementiel qui évoluent dans plusieurs sphères, évidemment, souffrent et alors ne travaillent pas du tout aujourd'hui, ou quelques-unes quand même arrivent à s'en sortir, arrivent à faire quelques missions, si j'ose dire.
On bricole.
Alors, on vous perd. Alors, le réseau, le temps qu'il revienne, monsieur Dijoux, vous restez avec nous, évidemment. On va se tourner vers Thomas Bordaise. Alors, pour les électropicales, il y a toujours pas de nouveau. Alors, on a reporté ça à octobre 2021. On a vu avec joie que la programmation était maintenue.
Oui, c'était un vœu qu'on avait fait à nos artistes, programmé initialement au mois de mai, puis au mois d'octobre 2020. De leur promettre une date, au moins l'assurance d'une date sur un des dispositifs de notre association, parce qu'on a des dispositifs à l'année, dont le festival, mais aussi d'autres actions. Donc de leur permettre en tout cas de jouer pour les électropicales, au moins pendant l'année 2021.
Alors vous travaillez avec des sociétés au niveau du festival qui sont dans l'événementiel, évidemment c'est une chaîne. Vous vous inquiétez aussi de savoir si les acteurs seront au rendez-vous demain pour pouvoir organiser les festivals. Est-ce qu'ils seront encore sur pied, ces acteurs ?
Tout à fait, on s'inquiète pour eux parce que 30 entreprises, par exemple, travaillent sur le festival pendant une semaine. C'est 150 personnes, techniciens, agences de sécu, etc. etc. Donc c'est important pour nous, pour la qualité de notre événement, d'avoir de s'appuyer sur l'expertise des sociétés locales. Et oui, c'est une inquiétude sur la survie de certaines d'entre elles. Donc on a réussi à maintenir quelques prestations cette année, mais on peut pas tout faire non plus. On a eu nous-mêmes à survivre cette année.
Bien sûr.
Donc c'est pas forcément très plaisant de s'imaginer qu'on doit survivre simplement.
Alors justement, vous avez pris part, vous vous êtes intéressé de près à ces états généraux de la culture à l'issue de l'appel des indépendants avec des professionnels de Lyon en premier lieu, mais ça s'est vite, finalement ça a fait des bébés. Hein. L'appel a suscité plusieurs centaines de signatures issues de partout en France, y compris ici. Je résume ces états généraux, hein. C'est pour un renouveau dans ces métiers, pour mettre fin aussi à un terme que l'on évoquait tout à l'heure, à l'interdépendance, et ça nous concerne particulièrement. On imagine difficilement comment mettre fin à ça, en fait. À quoi vous pensez, sachant qu'il y a 140 propositions, on peut les évoquer évidemment, qui ont été faites au gouvernement pour un petit peu refaire le visage aussi de ce secteur culturel.
Oui, c'est un document qui est sorti, ça s'appelle le manifeste de l'appel des indépendants. C'est 1600 structures qui se sont réunies pendant 50 workshops depuis mars 2020, suite à la crise Covid, au début de la crise Covid. C'est une initiative inédite, participative, collaborative. Imaginez en 6 mois 1600 structures qui travaillent sur des propositions, des solutions à destination de tous nos directeurs des affaires culturelles de France et de Navarre, Dom-Tom compris bien évidemment, un élargissement aux structures de l'Union européenne avec un projet qui s'appelle RISET. C'est non plus attendre que l'État nous demande de nous réunir pour travailler sur des thématiques, mais c'est nous qui proposons des thématiques, donc il y en a 6, comme la jeunesse, comme la coopération, comme les financements, comme la capacitation, c'est-à-dire l'outillage, pour nos entreprises. C'est des propositions en fait, c'est pas simplement l'idée de hurler au loup, c'est de dire les politiques culturelles en France sont ce qu'elles sont, ça fait 50 ans qu'elles existent, aujourd'hui il serait temps de faire un reboot un petit peu de ces politiques culturelles, que ce soit au niveau local mais au niveau national. Donc c'est des documents qui ont été transmis à toutes les mairies de France, à Madame la Ministre, Madame Bachelot, et pour imager le déséquilibre aujourd'hui qu'il y a sur un financement, par exemple, à Paris, par habitant, il y a 140 euros qui sont dépensés en structures culturelles, musées, théâtres, etc. Mmh. En ailleurs, c'est-à-dire tout le reste de la France, c'est 15 euros par habitant. Donc un rapport multiplié par 10 à Paris. Donc voilà un déséquilibre. Et puis un financement énorme sur le patrimoine. Alors c'est très bien le patrimoine, mais ce qui fait que la culture et l'exception culturelle dont on se prévaut en France et dont on en a fait un modèle à l'étranger, c'est clairement en berne. Et on ne mise non plus sur l'humain aujourd'hui, mais sur du patrimoine.
Bon, alors après, le patrimoine et les acteurs du patrimoine vous diront qu'au contraire, il manque beaucoup de moyens. Donc peut-être aussi que chacun défend sa paroisse, mais oui, voilà.
L'un ne va pas sans l'autre, c'est un rééquilibrage qu'on demande. Voilà, c'est entre Paris et la province. C'est pas simplement sur un domaine en particulier. Il y a 140 euros en culture qui sont dépensés par Parisien et 15 pour un gars de l'autre côté de la barrière parisienne.
Un cas provincial.
Et oui. Pareil pour les dom-toms.
Et ça vaut pour les dom-toms, c'est un chiffre national, c'est l'Express qui l'avait sorti en 2019, ce chiffre. Donc c'est dom-tom compris. L'idée d'apparaître dans l'appel des indépendants, c'est... on a 30 structures qui sont signataires ici à La Réunion, mais il y en a aussi de Tahiti qui nous ont rejoints et de Mayotte. Moi, je participe activement à ce qu'on appelle le Parlement, c'est-à-dire 24 structures qui se réunissent toutes les semaines pour valider certains points, communication, le financement de ce projet, etc., etc. Et le diffuser à nos élus. Je salue d'ailleurs un de nos élus députés qui s'est engagé, c'est Monsieur Philippe Naillet, auprès de plusieurs députés de France, dans une tribune pour défendre la culture, parce qu'on les a pas entendus beaucoup, nos élus à la culture, pendant la crise, bizarrement. On aimerait les entendre un peu plus, c'est un cri du cœur, c'est un appel, on leur propose un outil. Et du coup, ouais, je salue ce député qui s'est engagé auprès d'autres députés pour justement s'exprimer et sauver un petit peu ce secteur qui est quand même un des fleurons de la France.
Alors, ça passe par quoi si, par exemple, s'il y avait une proposition à retenir, ça serait laquelle, selon vous, celle qui pourrait vraiment changer la chose parmi ces 140 qui sont écrites?
Alors, je m'attends à cette question, bien évidemment, mais je ne veux pas en choisir une plus que l'autre parce que pour avoir travaillé activement à Lyon au mois d'octobre sur sur la partie coopération, en tout cas, et la partie dom-tom en particulier, je représente pour l'instant, parce que ça a mené à changer, bien évidemment, ça tourne, c'est des représentations tournantes. Pour avoir travaillé, je trouvais que le débat était tellement élevé, tellement intelligent, tellement positif, que je demande aux élus, à la culture, que ce soit région, département, ville, État, de se pencher clairement sur ces 140 propositions et ces 6 thématiques, parce que l'une ne vaut pas plus qu'une autre en particulier, quoi. Si je dois en retenir une, c'est la jeunesse. Voilà. On peine à mobiliser la jeunesse sur nos... C'est une des thématiques. On peine à mobiliser la jeunesse sur la culture. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour les accrocher au wagon.
Et pourtant, elles ne sont pas... la jeunesse n'est pas assez consommatrice de culture aujourd'hui, ou c'est plus qu'elle ne s'engage pas, qu'elle le...
Peut-être que ce qu'on leur propose est complètement déconnecté, puisque c'est une génération digitale native. Je dis pas forcément qu'il faut faire que du digital, mais peut-être qu'il y a des choses à repenser et peut-être qu'il faut les écouter. Et non plus que ce soit descendant, l'information ou les actes, mais plutôt montant. Et ça fait partie de ces propositions-là.
02 62 2 3 4 5 6 7. Alors, on aura Monsieur Dijoux dans quelques instants, puisqu'il est sur la route.
Oui, je le rappelle dans quelques instants.
Frédéric Dijoux, le président de l'Union nationale de l'événementiel, cette association qui s'est formée et qui représente donc les professionnels de ce secteur de l'événementiel. Thomas Bordez, le directeur du festival Les Électropicales, est également avec nous. Alors, c'était l'une des revendications aussi de l'UNEV, et vous y avez participé à cette manifestation la semaine dernière. Finalement, on a toujours un peu le même problème. Il y a ces aides régionales, le fonds d'urgence événementiel. Alors, ça concerne particulièrement Frédéric Dijoux, évidemment, on y reviendra avec lui. Mais il y a de l'argent public quand même qui est mis là pour essayer de sauver ces entreprises. On parle d'1,5 million par la région Réunion. Mais semble-t-il, et excusez-moi si je me trompe, mais les chefs d'entreprise eux-mêmes, eux, n'ont pas de revenus.
Ah ben ça, il faut leur demander.
C'est ça, mais apparemment, c'était effectivement les revendications qui étaient exposées à la préfecture la semaine dernière.
Ouais,
et là, ça porte
la même chose que vous.
Ça porte un vrai problème.
C'est un vrai problème. Après, c'est quand on sait que le secteur culturel aujourd'hui, ça représente plus dans le PIB que les secteurs automobiles. Quand on voit les aides vers ce secteur-là et les aides vers les autres secteurs, on se dit que clairement, on est un peu le parent pauvre. Alors que je le rappelle, on est quand même un des fleurons de la culture française à l'étranger. Il y a aussi des enjeux stratégiques aujourd'hui sur la culture ailleurs dans le monde. Hein, quand on rencontre d'autres pays, d'autres représentants, les principales choses qu'on met en avant, c'est la culture. C'est d'abord ça part d'abord d'une rencontre culturelle. Donc voilà, je pense qu'on est un peu mis à la fin de la chaîne. Je dis pas qu'il faut plus d'argent. Moi, je suis une association, j'ai bénéficié de financements publics qui ont été maintenus. On a maintenu également, nous, des actions de notre part. Ça nous a permis de payer les gens qui avaient travaillé sur le festival. Il faudrait pas qu'il y ait une deuxième année là-dessus, mais on est soutenu au même titre que les autres entreprises, que ce soit la restauration avec chômage partiel, des choses comme ça, ou les boîtes de nuit. Mais voilà, ça suffira pas. Faut, enfin, c'est quand même. J'ai écouté Monsieur Dijoux qui parlait la fois dernière. C'est on a manifesté pour pouvoir travailler. Il y a un principe d'égalité qui n'est pas respecté aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui peuvent travailler, le nôtre ne peut pas travailler. Je salue d'ailleurs les salles de spectacle qui font un travail extraordinaire sur l'accueil des publics. J'étais au Cabardoc la semaine dernière pour écouter Natiembe, qui reprenait Bachung. C'est safe. On a passé un bon moment, ça fait du bien, on rencontre des gens, les normes sont respectées, les distanciations sont respectées. Le Bicic également, le Palaxa, la Cité des Arts, voilà, il y a d'autres salles qui travaillent. Voilà, donc il y a ce principe d'égalité aujourd'hui qui est complètement remis en question en France, pays avec une constitution et des dogmes qui sont écrits sur tous les frontons des mairies. Il y a un principe de liberté également. Où est la liberté de choix? Où est la liberté de déplacement? Sachant qu'on extrapole un petit peu, mais il y a des choses que des acteurs culturels soulèvent tout au long de l'année dans leurs spectacles, que ce soit film, musique, théâtre,
oui,
que l'on retrouve clairement aujourd'hui dans le débat public. Liberté, fraternité,
ça
égalité.
Ça sort du cercle des artistes.
Tout à fait, on est là pour ça, pour éveiller les consciences.
Et en fait, non. En fait, l'artiste, par définition, pour le coup, et surtout en ce moment, se veut peut-être plus proche encore de la population qui écoute et consomme évidemment de la culture et de l'art. On retrouve Frédéric Dijoux.
Oui, je suis là.
Vous êtes avec nous. Alors, on évoquait les aides régionales avec Thomas Bordaise il y a un instant. Peut-être allez-vous être d'accord avec moi ou me dire si je me trompe. Il y a ce fonds d'urgence événementiel, 1,5 million d'euros mobilisés par la région Réunion pour aider vos entreprises. Cela étant, les chefs d'entreprise, eux, ne gagnent pas leur vie en ce moment et sont finalement les parents pauvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Bordaise pour dire que ce principe d'égalité est rompu entre les entreprises en France?
Ah ben bien sûr. Vous savez, comme je l'ai dit mardi dernier, nous ce qu'on veut, et je crois que Thomas l'a bien dit, nous ce qu'on veut c'est retrouver un minimum de dignité, on veut travailler, on ne comprend pas pourquoi nous on ne peut pas travailler. Je veux dire, on nous martèle, il faut les gestes barrières, il faut ceci, il faut cela. Je crois que nous, en tant que professionnels, l'événementiel, on n'est pas les vilains petits canards. Je crois que ce qu'on veut, nous, c'est retrouver une certaine dignité et travailler. Après, les aides, c'est bien. Mais comme je dis, on est devenus des assistés. C'est pas le but. Notre but à nous, c'est pas de devenir des assistés. Notre but à nous, c'est de travailler. Après, au niveau des aides de la région, il y a, bon, pour, je vais quand même corriger, c'est 1,5 million sur le premier fonds. Et puis après, il y a encore 10 millions qui va être débloqué, je pense, vers mars. Mais entre là et mars, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer.
On n'avait pas de visibilité. C'est ce qu'on entendait beaucoup d'ailleurs lors de la manifestation. Aucune visibilité, ou du moins très courte. Une de vos consoeurs, finalement, de l'UNEV, je pense que je peux raconter cette anecdote. Hein. On savait au téléphone pour organiser ce rendez-vous. Et y a un mariage qui était organisé pour là, après-demain. Un mariage à 6 personnes, c'est ça. On se demande comment est-ce que vous faites pour pouvoir vivre malgré les jauges réduites d'un côté, les petits contrats qui s'enchaînent. Vous l'avez dit, vous bricolez. Donc comment vous faites
aujourd'hui? Heureusement, moi je prendrai mon cas personnel. Heureusement que j'ai mon épouse qui travaille. Heureusement qu'on a une gestion assez saine depuis quelques années, ça nous permet d'avoir un petit peu d'économie. Mais comme je dis, 9 mois, quelle entreprise d'ordre mondial peut tenir 9 mois sans travailler? Nous, on le fait.
Alors, pas d'alternative pour l'instant, si ce n'est de rester à l'arrêt.
Sinon, de rester à l'arrêt. Et on bricole. Après, malheureusement, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que, y a des entreprises qui se mettent en la loi. Hein. Qui se mettent hors la loi en ce moment. Ils n'ont pas le droit de recevoir, ils n'ont pas le droit d'aller animer, ils n'ont pas le droit d'aller faire la fête, mais ils le font quand même, ils le font. Hein. Je crois qu'à mon avis, à un certain moment, on ne cherche plus à savoir. Je crois qu'on a même des adhérents qui se posent la question, est-ce qu'il y a de la loue? Est-ce qu'il y a une raison de ne pas travailler? Pourquoi eux, ils n'ont pas le droit de travailler? Pourquoi les autres le font? Aujourd'hui, la plupart de nos professionnels, ils sont dépités. Et dans ce moment, on va dire, un peu critique pour eux, eh bien, ils se mettent hors la loi. Je peux vous assurer, ils se mettent hors la loi.
Alors, au vu de la situation à La Réunion, qui est différente de celle de l'Hexagone, encore une fois ici, il y a quand même de l'activité. Les restaurants sont ouverts, les bars aussi. Seules les boîtes de nuit demeurent fermées pour l'heure. Hein. Les cinémas sont là. Comment est-ce pourquoi ne pas vous raccrocher à cette activité? Qu'est-ce qui empêche que vous puissiez travailler en même temps que ces structures-là, pour ces structures-là, aux côtés, comme ça a toujours été?
Bon, malheureusement, en France, comme vous le savez si bien, c'est le pays des lois. Il y a une loi pour une loi, il y a une loi pour défendre une loi, il y a une loi pour un décret, il y a une loi pour ceci, il y a une loi pour cela. Malheureusement, vous savez, la rencontre qu'on a eue, je prends un exemple très simple pour les salles de réception, qui ne peuvent pas recevoir de public, qui ne peuvent pas recevoir de mariage. C'est clair et net. Pourquoi? Pour une catégorie. Un restaurant qui peut recevoir, une salle de réception ne peut pas recevoir. Ce qu'on avait demandé, nous, au préfet, ce qu'on voulait voir, par exemple, un exemple très simple, on voulait lui dire, un restaurant, il peut recevoir avec tous les 6 personnes par table, avec tous les règles qu'il faut. La salle de réception, quelle est la différence entre la salle de réception et le restaurant? C'est la piste de danse. On supprimerait cette piste de danse-là, on supprimerait tout ça, il n'y a pas de souci, on n'en parle plus. Mais au moins qu'ils puissent travailler un 24 décembre, un 31 décembre ou un mariage, maintenant, ils disent aux gens, voilà, vous pouvez faire votre mariage, pas table de 6, mais on ne danse pas. Non, on ne peut pas. Cette catégorie L en catégorie N. Il y a des lois, mais à la fin, malheureusement, c'est toujours l'événementiel, c'est toujours le monde de la fête qui paye. Ça, c'est aberrant.
Alors là, vous parlez des salles de réception, c'est un exemple intéressant. On parle beaucoup de commandes publiques pour relancer l'économie. En général, on en a parlé pour le bâtiment, il y a des plans de relance pour chaque commune pour qu'elle puisse relancer chacune la commande publique et aider les entreprises. Est-ce que vous pouvez en bénéficier vous aussi de ce principe-là? Je pense notamment aux foires, aux événements qui sont organisés par les collectivités et auxquels vous participez activement finalement. Est-ce que vous avez eu un peu plus de visibilité là-dessus?
Alors vous savez, les commandes publiques, on les lance. Mais après, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'en ce moment, les mairies sont dans une dynamique de dire de lancer une fête foraine, de lancer des appels d'offres pour organiser telle ou telle manifestation? Ils sont très timides. Hein. Ils sont très, très timides là-dessus. Hein. Je crois qu'à mon avis, eux aussi, les mairies, les collectivités, ils savent même pas où aller. Ils savent même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les appels d'offres pour le monde festif, pour tout ce qui est milieu événementiel, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y aura un plan de relance, si c'est un plan de relance, oui, mais le plan, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que les mairies vont prendre le risque de le faire? Quand vous regardez vous-même aujourd'hui, grosse période festive du mois de décembre, regardez combien de villages de Noël qui a été mis en place. De regarder combien de conseils il y en a. Il n'y a rien. Aucune manifestation, presque aucune. Aucune presque manifestation.
Oui. Il y en a quelques-unes. Alors pourquoi certaines peuvent se tenir d'ailleurs? Et c'est ça, on pose la question. Pourquoi certaines s'organisent et d'autres non aussi? C'est là, et je reprends le principe d'égalité qui là aussi n'est pas respecté, Thomas Bordez. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne comprend pas beaucoup, en fait. Et sans doute que vous non plus.
On va dire qu'il y a certaines communes qui ont envie de le faire et qui ont la force et le courage de le faire.
Alors, tout simplement. La culture dès le confinement a pris part à de la recherche, a fait en sorte de mettre en place des plans sanitaires pour pouvoir continuer l'activité. Est-ce que l'événementiel, dans le même temps, a fait ce travail-là, a proposé des choses au service de l'État afin de pouvoir travailler, afin de pouvoir justifier? Thomas Bordez, vous le disiez, c'est safe dans les salles de spectacle, mais ça a été le fruit d'un travail. Est-ce que l'UNEF, non pas que je doute de votre capacité de travail, évidemment, Frédéric Dijoux, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui pourrait rassembler tous les acteurs qui a été mis sur la table en disant voilà, si on peut faire des concerts, des mariages, des baptêmes, ça se passera comme ça?
Mais bien sûr, je crois qu'à mon avis, avec nous, on a quelqu'un qui s'appelle Thomas Noni. Il est responsable un petit peu de notre protocole, de tout ce qui est service protocole chez nous, à l'UNEV, et entre autres, c'est lui qui faisait les protocoles du Sakifo, toutes les plus grandes manifestations, parenthèse, à La Réunion, au niveau protocole sanitaire, je peux vous dire qu'il est calé. Il a monté un dossier qu'on a remis à la préfecture pour tout type d'événement, en passant de l'anniversaire des enfants jusqu'aux salles de spectacle et jusqu'au plus grand festival. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple, le Sakifo. Le Sakifo, Monsieur le préfet a donné son accord pour le Sakifo. Il n'y a pas de problème. Il a regardé tout ce qui est protocole sanitaire. Tout était open. Malheureusement, la mairie qui décide de dire non. Aujourd'hui, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Un coup, ça peut être le préfet qui peut dire non. Une fois, ça peut être les mairies. Une fois, ça peut être l'ARS. Je prends un exemple très simple. Saint-André. Saint-André, monsieur le maire, le pauvre monsieur Bédier, qui annonce sur tous les écrans qu'il fera son Dipavali. Il a l'accord de la préfecture. Et là, l'ARS qui se présente à son bureau, on ne fait pas. Vous trouvez ça normal? C'est un moment. Il faudrait que peut-être, nous, je pense, à mon avis, nous, au niveau corps événementiel, au niveau de l'événementiel, on s'est réunis pour ça. On essaie de partir sur une même longueur. Mais au niveau de l'État, il y en a un qui tire, l'autre qui tire, l'autre qui tire. En fin de compte, chacun, c'est un moment, ne prenne plus de responsabilité. Soit il rejette tout sur le préfet, soit il rejette tout sur l'ARS, soit il rejette tout sur le maire. En fin de compte, il n'y a pas ce même langage de dire on fait ou on fait pas. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est ça. Soit on nous dit, écoutez, vous n'allez plus travailler jusqu'au mois de juin, point barre. On le sait. On le sait, point barre.
Une visibilité, voilà. Quelle qu'elle soit.
Voilà.
Thomas Bordaise, est-ce que lors des états généraux, est-ce que des questions sur ce sujet ont été posées aussi, cette relation entre les acteurs de l'événementiel et de la culture face au gouvernement pour le plus haut point, mais aussi face aux collectivités dans cette gestion de crise?
Bien sûr, c'est des questions qu'on se pose puisqu'on a abordé la question du travail avec les collectivités. C'est une des six thématiques. Pour donner un exemple, vous avez à La Réunion 300 jours par an de beau temps, vous allez vous enfermer dans un centre commercial où il n'y a aucune règle de respecter, n'en déplaise aux responsables de ces entreprises, même s'il y a des emplois, même si je respecte le travail qui est fourni. Et vous avez eu à un moment donné un gros paradoxe, c'était que les marchés ouverts en plein air étaient fermés, alors que c'est en plein air que le virus se dilue le plus. Pourquoi il n'y a pas eu à un moment donné une prise de conscience et s'appuyer sur les protocoles qu'on a donnés régulièrement à la préfecture, soit en tant que festival, soit l'UNEV, sur des choses qu'on proposait aux collectivités. Il pourrait y avoir un marché toutes les semaines au Bar à Choix, au Chaudron, au Camélia, enfin ils y sont déjà, mais aller dans les marchés, c'est en plein air, c'est ouvert, il y a moins de monde, il y a plus d'espace, on peut élargir les espaces à foison. Il y en a des terrains.
Ce n'est pas forcément les collectivités, c'est les gens.
C'est
eux et leurs responsabilités.
Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut proposer aussi des choses un peu nouvelles. Donc il y a ça, et puis il y a aussi. Donc c'est plein de paradoxes comme ça. Pourquoi notre paradoxe, par exemple pour les collectivités, que ce soit l'État ou les manifestations, on va vivre depuis un an avec ce virus, d'accord ? On a toujours de très mauvaises habitudes, le masque on le touche, on se lave pas forcément les mains, on se frôle, tout. Nous, en tant que responsables d'événements, on a créé via Thomas Noni, effectivement, qui travaille aussi pour les électropicales, des super protocoles avec des sciences des circulations. On dispense des valeurs des habitudes, on est au contact du public toute l'année. Pourquoi ne pas s'appuyer sur nos entreprises, nos événements, pour dire, tiens, en voilà une bonne idée, puisque le public a de mauvaises habitudes, pas tous, hein. Attention, je vois 90-95% des gens qui mettent le masque en ville, je les vois pas, moi, les gens qui sont assez négatifs par rapport à ces choses-là, à ce protocole.
C'est plutôt
bien respecté. On s'est fait gronder plusieurs fois, alors que c'est pas vrai, les gens respectent, mais appuyons-nous sur les événements et les responsables d'événements pour créer des habitudes, des bonnes habitudes, se laver les mains, porter le masque, sens des circulations, distanciation sociale, etc. Les protocoles, ils existent et on arrive à les faire maintenir et les gens, ils sont pas fous. Il faut arrêter de penser que les gens sont fous, ils sont dingues ou anti-État, etc. Ils font très attention.
Alors c'est quoi? C'est un manque de communication, un manque de confiance de la part des collectivités?
C'est la peur de la responsabilité. Aujourd'hui, pour un rien, un contribuable va se retourner contre le maire ou contre le préfet, porter plainte. Et du coup, voilà, si j'attrape le Covid à un événement... Donc je porte plainte contre le préfet, le responsable. C'est toujours très... Aujourd'hui, on est dans une société où c'est très facile de porter la responsabilité sur l'autre. Voilà. Et de ne pas se dire, mais moi, comment je fais pour déjà me prémunir de tous ces virus, etc. Voilà.
Donc pour revenir à la salle de réception que citait Frédéric Dijoux, si cette salle de réception, vous parliez de professionnels qui ont enfreigné les règles, peut-être par nécessité, hein, selon vous, la question de la responsabilité se pose aussi au quotidien pour vos métiers et pour vos professionnels. Si cette salle de réception décide en effet de recevoir quand même un mariage, comment ça se passe pour elle? Il y a peut-être ça aussi, si un des convives attrape la Covid pendant l'événement. Il y a peut-être ce risque-là aussi, double risque en fait pour les professionnels.
C'est double risque, bien sûr, mais vous savez, en ce moment, malheureusement, on peut l'attraper n'importe où. On peut faire nos courses, on peut aller à l'école. Et c'est pourquoi, bon, les salles de réception, ils savent exactement ce qui risque. Hein. Malheureusement, vous savez, en France, on est dans un pays de droit, un pays où il faut toujours un coupable. Il faut toujours un coupable. Comme le disait si bien Thomas, il faut toujours un responsable. Si je prends un cas de Covid, si aujourd'hui un maire fait une manifestation et que malheureusement il y a un cluster de Covid, on se retourne contre le maire. Moi, ce que je comprends pas, pourquoi toujours avoir un coupable? Je prends un exemple très simple. Je prends ma voiture, j'ai picolé du rhum charrette. Même si l'abus d'alcool est dangereux, j'ai picolé du rhum. J'ai picolé du rhum. Là, je fais un accident, madame. Je fais un accident. Malheureusement, je tue quelqu'un. Le responsable, c'est qui? C'est moi. Est-ce que à côté de ça, on va faire fermer l'usine de rhum? Non. Le responsable, c'est celui qui a fait. Je veux dire, à un certain moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On le dit, ils font des campagnes avec des millions et des millions et des millions et des millions d'euros pour dire « portez le masque ». À un certain moment, ça sert à quoi? Il faut que les gens se responsabilisent. Je crois qu'à mon avis, il faut arrêter de mettre chacun devant ses responsabilités. Arrêter de dire « ah ben oui, mais si c'est le maire qui a fait, c'est le maire qui est responsable. Ah, c'est le préfet qui a donné l'autorisation, c'est le préfet qui doit être responsable. Ou c'est le maire qui a fait le ça qu'il faut, ah ben il est responsable. » Non, à un moment, vous savez qu'il y a des gestes à faire, vous savez qu'il y a le masque à faire. Si vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, vous ne venez pas. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut peut-être prendre, dans les grandes surfaces aujourd'hui, on nous a bien dit, il faut 8 mètres carrés par personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour compter? À l'entrée, on entre, on sort. Il n'y a personne. On entre, on sort. On nous dit, un truc bête, il ne faut pas se croiser. On fait une entrée et une sortie. Excusez-moi, mais je suis au rayon frais, malheureusement. Je suis au rayon frais, il me manque de l'huile. Je retourne dans le magasin, je fais le tour. Je risque de croiser la personne qu'il a ou il n'a pas. Je veux dire, il y a des choses comme ça, on n'arrive plus à comprendre. Aujourd'hui, on est des sinistrés.
Est-ce qu'il vous rapproche et des acteurs de la culture? Alors, on parlait d'interdépendance. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu à ma question, Thomas Bordès, tout à l'heure sur cela. C'est que vous vous rendez bien compte tous que le risque sanitaire est là. Et ça, jamais vous n'avez dit le contraire. Et finalement, jamais vous n'avez dit que l'activité culturelle et événementielle devait passer devant les nécessités sanitaires. Donc, qu'est-ce qui ne passe pas comme message aussi auprès des autorités? Parce que ça, on dirait qu'il y a un fossé en fait entre vous et les collectivités, ou en tout cas les décideurs.
Parce qu'on souffre encore d'une image de troubadour et de saltimbanque, alors que nous sommes des gens hyper structurés, hyper normés, hyper professionnels. Je suis pas de la culture à l'origine. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'ai découvert un monde fait de gens responsables. Je comprends pas aujourd'hui qu'on puisse mettre ce secteur de côté. Alors certes, on paye notre manque de structuration. L'UNEV est toute jeune et j'espère que le travail qu'ils sont en train de faire, qui est exceptionnel, va durer et qu'ils pourront pérenniser un petit peu ces actions et ce travail avec les autorités, les collectivités. On paye ça aujourd'hui. Je vois les acteurs les artistes qui se sont rassemblés pendant le Covid alors que ça n'existait pas avant. Ils ont monté un syndicat. Donc on paye notre manque de structuration, on n'est pas des lobbyistes, on n'est pas en mesure d'avancer des chiffres de manière construite, bien sûr si on peut le faire, mais bon, voilà, on le fait pas parce qu'on n'a pas de voix qui porte. Quand je vous dis qu'il y a 140 € à Paris et 15 € pour quelqu'un ailleurs de la ceinture parisienne, voilà, ce sont de vrais chiffres. On a des vrais calculs. Quand je vous dis que 1 € investi dans la culture, c'est entre 4 € et 10 € qui retombent sur un territoire. C'est des vrais chiffres, c'est calculé, c'est des instituts de sondage, des entreprises économiques qui font ça. C'est des documents qui sont portés par le ministère de la Culture qui disent ça. Donc des chiffres, on en a. Mais on souffre de pas avoir de voix, de pas avoir la force économique de la grande distribution qui peut aller discuter d'égal à égal avec un préfet. Comment ça se fait que ce soit pas le préfet qui reçoive l'UNEV? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est respecté ce secteur-là qui aujourd'hui, je le rappelle pour la troisième fois, est un des fleurons de la France, l'exception culturelle dont on se targue. Voilà, sur l'île des poètes à La Réunion, qui a donné ses lettres de noblesse à l'Académie française avec certains poètes. Comment on peut faire ça aujourd'hui? C'est quoi cette façon de respecter les gens? Pourquoi on n'a pas entendu les élus à la culture de la région, du département, des communes? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a loupé? Donc ouais, on peut se poser les questions.
Le dernier vote du budget aussi, le budget primitif régional qui a augmenté un petit peu aussi pour ce secteur culturel.
C'est louable. Et... C'est voilà un geste qui est positif pour 2021, c'est dire ok, on vous a entendu. Voilà, on vous a écouté, on vous a entendu. Donc on a des budgets qui augmentent, mais pas simplement. Moi, je suis sur le territoire de Saint-Denis, je vois le budget de la culture qui augmente à Saint-Denis. Voilà, mais ça fait 9 mois. C'est pourquoi on construit pas ensemble les choses et pourquoi il y a cette information et ces actes descendants et pas montants aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille avec les Pays des Indépendants. C'est un travail à long terme. Il y a l'UNEF qui travaille au niveau régional pour les entreprises, qui est là pour impacter. C'est le, j'ai envie de dire que c'est le bélier, quoi. C'est ceux qui rentrent dedans, quoi. Et nous, sur l'appel des indépendants, c'est un peu plus long. C'est un travail à long terme. On travaille avec des sénateurs, des députés pour porter les dossiers, pour faire des amendements sur le budget à la culture pour 2021. Carrément, hein, on n'est pas là pour rigoler, quoi, non plus. Mais ça se situe à un niveau suprarégional. Donc c'est pas tellement visible au niveau local, mais c'est plus sur du long terme, plus sur ce travail au niveau du ministère. Donc voilà, c'est ce sur quoi on bosse.
Et juste cette commande publique, finalement, ne répondrait pas aux besoins, si, pour en revenir là, si ce sens est perduré, si cela vient toujours d'en haut, peut-être que ce n'est pas ce que veulent les professionnels à la base.
Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il y a de très bonnes idées, mais à quel moment on s'appuie sur les gens qui sont acteurs? Voilà. Et ça vaut pour tous les secteurs de la société. À quel moment on responsabilise les gens? Vous voyez, on est sur des questions qui vont au-delà du Covid. On est au niveau, on voit aujourd'hui les textes qui sont créés. Il y avait une très belle tribune de Xavier Magnon, professeur à Marseille, sur les libertés, l'égalité, tout ça. On a des textes qui sont pondus, des décrets, parce qu'on est en état d'urgence sanitaire. Et après, on les enlève comment, ces choses-là, la liberté de circulation, des choses comme ça, tous ces décrets qui sont sortis, comment on les enlève? La question a été posée, mais il n'y a pas de date. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, aujourd'hui, clairement, c'est une situation extraordinaire. Elle est extraordinaire pour nos hommes et femmes politiques, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est simple pour eux. C'est comme un événement à gérer. C'est peut-être compliqué de gérer un événement, finalement, même au niveau politique. Donc, peut-être qu'ils sont un petit peu à notre place pour voir un petit peu que c'est complexe. Et nous, on se propose d'apporter des solutions, d'être relais de terrain. On est au contact du public. On propose des solutions. Voilà, on aimerait bien être entendu, pouvoir travailler, comme le souligne Monsieur Dijoux, qui fait un super boulot là. Il fallait l'écouter l'autre jour.
Et justement, je reviens vers vous pour conclure, Monsieur Dijoux. Je sais que l'UNEV participe finalement à l'aide des entreprises. On terminera là-dessus pour bénéficier des aides d'État aussi. Est-ce que on peut avoir un petit mot là-dessus pour terminer? Beaucoup d'entreprises seront, ou de professionnels en tout cas, parce qu'on sait que parfois les gens travaillent tout seuls dans leur propre structure. Beaucoup se sont tournés vers vous pour demander un petit peu d'aide afin de faire des dossiers de demande d'aide, de subventions également, que ça soit au niveau régional ou autre.
Oui, bah oui, on essaie de donner un petit peu. Vous savez, dans cette période, je crois que nous, au niveau de l'événementiel, comme j'ai dit la dernière fois, il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire, nous, c'est manifester. On n'a jamais manifesté. Cette situation-là, on n'a jamais connue. On n'a jamais connue. Et c'est pourquoi, bon, et je ne suis pas le seul à être comme ça. Je dis, ah bon, après, vous savez, l'événementiel, ça commence par le petit DJ qui travaille tout seul, qui fait ses 2000 euros par mois. Et qu'aujourd'hui, qui vit que de ça, qui vit de sa passion. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a besoin d'aide. Et nous, on essaye tant bien que mal. C'est vrai qu'un peu de fois, il y a quand même cette patience qui, malheureusement, ça se passe pas comme nous. Nous, dès l'événementiel, on est réactif. Il faut ça, on le fait. Point barre. C'est vrai que, malheureusement, avec tout ce qui est administration, et surtout en cette période, c'est un peu lent. On essaie de canaliser un petit peu tout le monde. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui l'UNEV, on fait autant du social que de l'administratif.
Le moral, j'imagine, des entrepreneurs n'est pas là, quoi.
C'est horrible. Vous savez, je dis un mois de décembre pour une entreprise d'événementiel, c'est sa fierté. Vous savez, quand vous travaillez dans le bâtiment, je l'ai dit mardi, je vais le répéter encore, quand vous travaillez dans le bâtiment, quand quelqu'un est ouvrier dans le bâtiment, toute l'année, il pense à son mois de décembre parce qu'il dit clairement, ah, le 18 décembre, on va être en congé, je vais presser, mon mois de décembre arrive, parce que le mois de décembre, on va être en congé. Quelqu'un qui travaille dans le commerce, une caissière, elle, ce qu'elle dit quand on pense à son mois de décembre, mon Dieu, là, je vais souffrir, là. Mmh. Là, ça va être chaud. Nous, l'événementiel, qu'est-ce qu'on dit? Vivement notre mois de décembre pour travailler. Voilà ce qu'on dit. Et aujourd'hui...
Mais c'est la fête. Oui, normalement, c'est vrai.
Et on ne fait plus rien.
Merci beaucoup, Frédéric
Merci
Dijon,
à vous.
Président de l'Union de l'événementiel. Merci d'avoir été avec nous au téléphone.
Merci à vous.
Merci Thomas Bourdais.
Merci Thomas. Frédéric.
Merci beaucoup. Vous êtes le directeur du Festival des Électropicales que l'on retrouve en octobre 2021. Et croyez-moi, je touche du bois. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même antenne.
Merci à vous. À demain.
Merci Johanna. Merci Réunion.
RTL Réunion.
On refait la Réunion.
On refait la Réunion avec Héry Jardin, spécialiste piscine, spa et arrosage. Visitez notre boutique à Saint-Pierre ou sur herryjardin.re.
Attend pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu.
Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des